À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 20h.
Adrien Delgrange.
19h en temps universel, nous sommes le 24 janvier et à la une de cette édition internationale, de violents combats dans l'est de la RDC poussent les États-Unis, le Royaume-Uni et la France à appeler leurs ressortissants à quitter Goma. Vladimir Poutine attentif à Donald Trump, le président russe prêt à parler au nouveau président américain. La colère en Serbie de milliers d'étudiants et de lycéens, ils se sont rassemblés aujourd'hui dans les rues de Belgrade contre le gouvernement, correspondance à suivre. Et puis dans 10 minutes, ici l'Europe, l'invité est Salomé Zourabichvili. La présidente de Géorgie proteste contre le virage pro-russe du parti Rêve géorgien. Elle s'inquiète des ingérences russes à travers l'Europe. Elle a assisté aux cérémonies d'investiture de Donald Trump cette semaine et elle nous dit ce qu'elle attend des Européens juste après ce journal. Mais tout d'abord, nous sommes à la veille de la libération d'otages retenus à Gaza depuis maintenant plus de 15 mois et demi. Le Hamas a publié dans la journée les noms de 4 soldats qui doivent être libérés demain samedi. Information confirmée par Israël. Un échange dans le cadre de cette deuxième série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël et ce, conformément à l'accord signé récemment entre Israël et le Hamas. L'actualité dans l'est de la RDC où la MONUSCO assure ce soir continuer d'apporter son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. La mission de l'ONU dit que ces forces ont été activement engagées dans des combats intenses. 5 casques bleus ont été blessés aujourd'hui, 4 ont subi des blessures mineures. La MONUSCO réitère son appel du secrétaire général du M23 pour qu'il cesse immédiatement son offensive. L'actualité nous emmène à présent en Serbie où des milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues de Belgrade contre la corruption et dans l'espoir d'accentuer la pression contre le gouvernement d'Aleksandar Vučić. Après des semaines de blocage des universités et dans de nombreuses manifestations monstres, le mouvement tente désormais de mobiliser l'ensemble de la population pour pousser le gouvernement à la démission. Correspondance Laurent Rouy.
De nombreux commerces étaient fermés ou vides de clients suite à l'appel des étudiants contre la corruption, à une journée de grève générale. Le mouvement a été particulièrement suivi dans l'enseignement, la culture, par les avocats, mais aussi par de petits groupes de fonctionnaires de certains hôpitaux, de l'opérateur électrique serbe, des tribunaux ou des employés des mines de charbon. Par ailleurs, de nombreux cortèges ont bloqué les principaux quartiers de la capitale Belgrade et de nombreuses villes de province, dont Novi Sad, lieu de l'effondrement du haut vent de la gare le 1er novembre. Cet accident qui avait fait 15 morts avait été le point de départ du mouvement anticorruption en Serbie qui paralyse le pays et réclame la démission du gouvernement. En plus des 15 minutes de silence désormais quotidiennes à 11h52 en hommage aux victimes de Novi Sad, de nombreux cortèges ont convergé notamment vers le siège du gouvernement. Dans l'après-midi, une étudiante a été blessée par une conductrice qui tentait de forcer un barrage provoquant le blocage par les étudiants d'une rentrée d'autoroute. Les manifestants se donnent maintenant rendez-vous lundi pour une action d'ampleur qui est pour l'instant gardée secrète. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Le président russe est prêt à parler au nouveau président américain Donald Trump. C'est du moins ce que fait savoir aujourd'hui le Kremlin. Cette proposition fait suite à un coup de fil entre les deux hommes hier. Pour l'heure, ni Moscou ni Washington n'ont avancé de réel calendrier pour cette discussion. Le sujet de la guerre en Ukraine devait être abordé. Donald Trump a plusieurs fois dit qu'il voudrait mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible. Donald Trump et les États-Unis, où sa volonté d'interdire le droit du sol. Le droit du sol où tout individu né aux États-Unis est citoyen américain, même si ses parents sont étrangers. Donald Trump veut interdire ce droit. Un juge américain a annoncé aujourd'hui que son décret était inconstitutionnel et contraire au 14e amendement de la Constitution du pays. Une suspension temporaire, mais selon Sébastien Natrol, il sera de toute façon très difficile pour Donald Trump de faire appliquer cette décision.
Il a été suspendu temporairement parce que c'est le seul moyen pour un juge de district de pouvoir agir au niveau national. C'est ce qu'on appelle une nationwide injunction. Donc ça permet d'agir dans tout le pays puisque normalement les cours fédérales agissent à un niveau territorial. Donc là, ça permet de suspendre cela au niveau national. Néanmoins, voilà, on l'a vu, ça se termine au bout de 14 jours. Ça pourrait être éventuellement prolongé un petit peu plus longtemps, mais cela va poser question pour Donald Trump puisque son executive order, ce qu'on peut appeler un décret en français, va à l'encontre des nombreuses jurisprudences de la Cour suprême et ce, depuis 1898. si l'injonction n'est pas prolongée, le décret pourra à nouveau s'appliquer. Mais de toute évidence, on peut imaginer que toute personne, enfin en tout cas toute famille qui serait touchée par ce décret, pourrait saisir la justice et le faire invalider dans leur propre cas. Ça va être extrêmement compliqué de pouvoir faire vivre ce décret et pour Donald Trump de pouvoir suspendre cette nationalité acquise en vertu du droit du sol.
Un propos recueilli par Nicolas Rocca, RFI à Paris, 20h05 dans l'actualité française. Le tour de vis affiché du ministre de l'Intérieur en matière d'immigration. Bruno Retailleau a envoyé ce jour au préfet une nouvelle circulaire, un nouveau texte. Ce texte durcit les conditions de régularisation des sans-papiers. Bonne maîtrise du français, séjour sur le territoire d'au moins 7 ans, l'absence d'OQTF ou de risques et de menaces à l'ordre public. La circulaire est ainsi bien plus stricte que la circulaire de Manuel Valls, publiée en 2012, qui définissait les critères de régularisation, notamment de personnes travaillant en France. En déplacement, aujourd'hui, dans l'ouest de Paris, dans le département des Yvelines, Bruno Retailleau a précisé l'objectif de cette circulaire.
Cette circulaire correspond à un terme AES, c'est les admissions exceptionnelles au séjour. Ça doit rester exceptionnel. Il n'y a pas de droit automatique et général à la régularisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prime à la fraude. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que obtenir des papiers en fraudant la loi française, en passant illégalement nos frontières, soit plus simple et plus rapide que obtenir des papiers légalement pour des étrangers qui vont s'inscrire dans un parcours pour obtenir un titre de séjour travail légalement. On ne peut pas désavantager les seconds qui acceptent nos règles au mépris des premiers qui les violent.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, propos recueillis par Marie Casadebé. Un policier sera jugé en France cette année pour avoir éborgné Jérôme Rodriguez, figure du mouvement social Les Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez a perdu en partie la vue lors d'une manifestation, c'était en janvier 2019 à Paris, après avoir reçu une grenade lancée par un policier. Ce policier, âgé de 34 ans, sera jugé pour violence volontaire. En Martinique, il a été condamné, mais il retrouve la liberté. Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère, est libre ce soir, après deux jours d'audience où il était jugé pour violation du domicile du préfet de la Martinique. Le tribunal de Fort-de-France l'a condamné à un an de prison avec sursis. L'homme d'une quarantaine d'années doit sortir aujourd'hui de prison avec un aménagement de peine. Il doit porter un bracelet électronique. Refermons ce journal en parlant de l'avionneur Boeing. Une année horrible pour l'avionneur américain qui a vécu bon nombre de déboires en 2024. Des pièces arrachées en plein vol, moins de commandes, livraison en recul. Au final, Agnieszka Kumor, la facture encore préliminaire est déjà bien salée.
C'est d'abord l'image du géant qui prend un grand coup. Son action s'effondre. Résultat, un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars au quatrième trimestre au lieu des 16 milliards attendus. 2024 commence mal par un incident en plein vol. Une partie du fuselage sur un 737 MAX 9 est arrachée, propulsant Boeing dans une crise sans précédent. Puis, c'est la grève de l'automne. 33 000 ouvriers cessent le travail pendant 7 semaines, dont 2 usines du groupe près de Seattle. C'est là que sont assemblés le 737, son avion vedette, ainsi que d'autres modèles commerciaux et militaires. C'est la grève du siècle aux États-Unis avec des milliards de dollars d'impact pour l'entreprise et pour ses fournisseurs. Mais la grève n'explique pas tout. Les coûts des programmes militaires avec Boeing ont été sous-estimés. Et puis, il y a le nouveau 777X dont la certification a été suspendue. Encore une pièce défaillante. Les livraisons de ce gros porteur devraient commencer en 2026 avec 6 ans de retard.
Et puis enfin, Emmanuel Macron reprend le dossier du Louvre en main. Le président français va s'exprimer sur le mauvais état de ce plus grand musée du monde. Hier, la directrice du Louvre avait tiré la sonnette d'alarme sur la vétusté des lieux et les mauvaises conditions de conservation des œuvres. Emmanuel Macron se rend au Louvre mardi prochain. Ainsi se referme ce journal international. Je vous laisse tout de suite avec Caroline de Camaré. Ici, l'Europe et son invité, la présidente de Géorgie. RFI à Paris, il va être 20h10.